également.
Merci à Adrien Laroche de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai découvert un petit peu par surprise. Alors, mon sujet, plutôt que Homère et Jeunesse, je pourrais l'intituler « Présence d'Homère dans Miracle de la Rose ». En effet, je limiterai ce propos à « Miracle de la Rose » et à « Miracle de la Rose » seulement, parce que c'est le seul roman dans lequel cette perspective soit pertinente. Alors, il y a une comparaison d'Homère dans laquelle il parle d'un chien qui repère l'odeur d'un gibier et qui se met sur sa trace à travers la campagne. Eh bien, je vais faire comme le chien d'Homère, en suivant les traces de l'Iliade dans Miracle de la Rose. Alors, pourquoi Homère? Pourquoi Miracle de la Rose? On sait que Genet ne fait pas allusion explicitement à Homère dans ses premiers écrits, ou alors de manière tellement discrète qu'il faut savoir ce que l'on cherche afin de le trouver. Je pense qu'il est intéressant de signaler la manière dont j'ai été alertée sur ce point. Il se trouve qu'en relisant le début de Miracle de la Rose, j'ai eu l'intuition qu'il y avait de l'Homère là-dessous, mais pas immédiatement. En fait, en relisant la première page de Miracle de la Rose, j'avais une impression persistante de déjà-vu. À force de réfléchir, j'ai fini par identifier la remémoration d'un effet fondé sur le passage de l'invocation initiale au récit proprement dit. À partir de là, j'ai rencontré dans la suite de ma lecture toutes sortes de confirmations de cette première intuition et j'y viendrai dans un instant. Mais d'abord, je vais revenir très brièvement sur cette première page. Le premier paragraphe présente une unité tonale, rythmique et thématique qui est extrêmement forte. Il est écrit en prose mesurée, où l'on reconnaît des octosyllabes, des décasyllabes, et plus particulièrement des groupes rythmiques caractéristiques de l'alexandrin 6 et 4. Par exemple, avec cet aphorisme, le breuvage enchanté, c'est le malheur. On y trouve même des alexandrins tétramètres réguliers, le dernier avatar que la mort fixerait. Comme dans un poème, le rythme et le son signifient autant, sinon plus, que le sens dénoté. Comme dans un poème encore, tout le paragraphe s'organise en fonction de la chute. Et c'est bien ce qui se passe à la fin du paragraphe. Ce sont les phonèmes, et en particulier les allitérations, qui prennent en charge la signifiance. Je cite « Enfin, Fontevraud brille encore, mais d'un éclat pâli, très doux, des lumières, quand son cœur le plus noir, les cachots, émis Tarcamone, condamné à mort. » J'ai longtemps cherché ce que pouvait signifier le beau nom d'Arcamone, mais il me semble que la réponse est ici, dans le jeu des phonèmes, un jeu anagrammatique. Arcamone condamné à mort. Quant à l'éclat pâli, très doux, du nom de Fontevraud, il s'illustre dans les assonances un peu grises, cendreuses de la première phrase, dans laquelle on ne trouve aucune voyelle claire, mais des voyelles d'arrière ou des sons nasalisés, qui sont extraites, des sons qui sont extraits du nom propre, selon le même phénomène. De toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. Le paragraphe entier s'organise autour du nom de Fontevraud. La règle en est donnée dès cette première phrase. Le superlatif isole Fontevraud en fait le centre de l'ensemble des centrales, tout en plaçant son nom au centre de la phrase. C'est donc une centrale superlative, la centrale qui concentre en elle toutes les autres. La mise en valeur se poursuit dans l'attaque des phrases suivantes. C'est elle qui, qu'elle la tienne, qu'elle le fût, enfin Fontevraud brille encore. Une telle disposition fait de la centrale de Fontevraud une sorte de figure mythologique à laquelle semble dédicacer le livre tout entier. En un mot, ce début, jusque dans le plus petit détail, mime ce qu'il dit, comme le montre, par exemple, cette phrase programmatique située au centre du paragraphe. « Je sentais que ces murs conservaient la custode conservant le pain, la forme même du futur. Le mot forme prend son sens concret de la position entre tirets du mot custode, la boîte dorée dans laquelle est contenue l'hostie. L'hostie est son principe actif, on voudrait dire radioactif. Ainsi se trouve préfigurée la présence rayonnante d'Arcamon au centre de la centrale. Mais on pourrait dire aussi bien de chaque phrase que sa configuration contient, telle la custode conservant le pain, la forme même du sens qu'elle renferme, un sens aussi actif, mais aussi mystérieux, que la puissance sacrée de l'hostie, qui signifie, comme on sait, victime. Je cite « Arcamon s'est revêtu de la majesté de la victime et de la brutale beauté du guerrier. Au cœur du chant s'inscrit en même temps que la guerre, la blessure. En voici la sentence. Le breuvage enchanté, c'est le malheur. » Aphorisme qui pourrait apparaître comme la définition de l'épopée dans laquelle guerre et malheur sont au principe même du chant. Alors, qu'ai-je voulu montrer à travers ces quelques remarques? Est-ce que j'ai démontré un lien visible avec Homère? Non. Et je tiens à souligner ce fait. Il n'y a pas ici référence à Homère, mais présence d'Homère. Et cette présence est d'autant plus forte qu'elle hante le texte comme le pain dans la custode. Ce que j'ai voulu d'abord établir, c'est en quoi, dans ce premier paragraphe, il y a poésie, en quoi, dirais-je même, il y a exposition de cette poéticité, et je me demande si l'incandescence de ce lyrisme n'a pas pour résultat, et peut-être même pour fonction, de faire sentir, du premier au second paragraphe, le passage de l'invocation au récit, du chant lyrique au ton plus factuel, quoique toujours élevé, de la narration. En quittant la santé pour Fontevraud, je savais déjà qu'Arcamon y attendait son exécution. À son arrivée, je fus donc saisi par le mystère d'un de mes anciens camarades, etc. C'est dans ce contraste que réside non pas l'imitation, mais le souvenir du début le plus célèbre de la littérature européenne, le début de l'Iliade. Bien entendu, cette source n'est pas le fruit du hasard. Genet avait besoin de l'Iliade pour ce qu'il avait à dire, j'y reviendrai. Mais d'abord, en dépit de la différence d'époque et de langue évidemment, il y a là le souvenir d'un moule de création entraînant, par la mémoire partagée, une certaine posture de réception. On se souvient que l'Iliade commence par ces mots. Déesse, chante-nous la colère d'Achille, de ce fils de Pélée, colère détestable qui valut aux Archiens d'innombrables malheurs et jeta dans l'Hadès tant d'âmes de héros, livrant leur corps en proie aux oiseaux comme aux chiens. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. Commence à la querelle où deux preux s'affrontèrent, l'Atride, chef de peuple, et le divin Achille. À l'adresse à la muse répond ici, même sans le vocatif, une véritable invocation à Fontevraud. Après quoi commence le récit, l'épos proprement dit. Une fois l'oreille du lecteur alertée, car c'est vraiment d'une remémoration musicale qu'il s'agit, du moins pour l'incipit, l'attention à son tour s'éveille et, comme je l'ai dit, on s'aperçoit qu'il y a bien une piste à suivre et de l'Homère là-dessous. Mais il y a de l'Homère à l'œuvre, dans Miracle de la Rose, mais de manière enfouie. Réminiscence contre mimésis, imprégnation contre adaptation, signifiance contre signification, en un mot, innutrition. Homère, comme une hostie que Genet aurait avalée. Remarquera que j'ai parlé jusqu'ici de l'Iliade et non de l'Odyssée. Ce n'est pas une omission. Dans Miracle de la Rose, je joue l'Iliade contre l'Odyssée. L'Iliade, c'est l'univers du conflit où se déploie l'héroïsme individuel dont le sommet est l'Aristeia, série d'exploits accomplis par le guerrier qui, au plus haut de lui-même, devient alors un tueur redoutable. C'est alors qu'il est le meilleur, Aristos. Pierre Vidal-Naquet oppose l'Iliade, poème de la guerre, à l'Odyssée, poème de la paix. On pourrait dire aussi, et cette formulation est tout à fait essentielle à mon propos, que l'Iliade est le poème de l'adolescence et l'Odyssée, celui de l'âge adulte. Achille est le héros de l'absolu, Ulysse celui du relatif. Le premier obéit aux lois de la Timée, l'estime due à sa valeur. Le second à celui de la Métisse, l'intelligence, la ruse. Les valeurs de l'Aristeia sont à l'opposé de celles qui permettent une adaptation harmonieuse aux réalités de la société. L'univers épique de la lutte, du conflit, où chacun doit imposer sa force et faire respecter son rang, cet univers guerrier, est celui-là même où se reconnaît, ou se reconnaîtrait, s'il le savait, le monde de Maîtrée, du moins tel que le voit Genet. Univers adolescent, obéissant à de toute autre loi que l'univers adulte, qui l'encadre sans le comprendre, sans pouvoir le pénétrer ni agir sur lui, quel que soit son pouvoir de contrainte. La répression, tout au contraire, encourage cette énergie d'opposition, la concentre, comme la custode, qui concentre la forme de ce qu'elle, la force de ce qu'elle renferme. On se souvient que custodia, en latin, signifie prison. De même que la custode crée la force de l'hostie en l'enfermant, ainsi la prison fait rayonner le puni, le fait exister de toute son énergie, de tout son être ontologique de puni. Puni est un terme de Genet, c'est un terme d'enfance. C'est toujours un enfant qui est puni, parce qu'il a au plus haut degré le sens des lois et partant celui de la désobéissance. L'énergie qu'il anime contre les règles du monde adulte, qui lui apparaît comme une sorte de monstre unique, une sorte de monstre mythologique, est justement ce qu'il fait exister en tant qu'enfant. Si dur, si douloureux que soit le monde de Maîtrée, le narrateur de Miracle de la Rose ne veut pas le quitter sans en avoir développé le parfum particulier. Parler de Maîtrée, faire revivre Maîtrée, tenter d'en transmettre l'expérience, c'est repasser par les chemins de l'Iliade. Miracle de la Rose est un anti-roman d'apprentissage. Dans cet univers carcéral, on ne passe pas de l'Iliade à l'Odyssée. Fontevraud est et reste, non pas dans la réalité biographique de l'auteur comme on sait, mais dans l'économie poétique du roman, une émanation, une prolongation fantasmatique de Maîtrée. Le symbole de ce tour et retour à Maîtrée est le motif récurrent de la ronde des punis. À tel point, dit Genet, qu'à Fontevraud, il me semble avoir grandi sans m'arrêter dans ma ronde, sans quitter le monde épique de l'enfance. L'Iliade est un récit fait pour l'enfance. Au fond, Achille se dit « c'est pas juste, je vais me retirer, et après ils mourront tous et ce sera bien fait. » Mais pour que cela marche, il faut être un vrai caïd. Dans Miracle, Beauvais, qui désire le tatouage de l'aigle, proteste en disant « Oh, dis, à Villeroy, qui joue ici le rôle d'Agamemnon ? » Celui-ci lui refuse cet honneur. Je cite, « Beauvais voulut passer outre, il en mourut. » J'ai parlé tout à l'heure d'adolescence, mais Genet n'utilise guère ce mot. Il parle le plus souvent d'enfance, et c'est une chose qui a été remarquée à plusieurs reprises dans ce colloque. Je cite une phrase, je vais sauter rapidement une page pour raccourcir un petit peu mon exposé. Je cite une phrase quand même qui me paraît intéressante. Genet dit « La vie fléchit la rigidité des colons et les casseurs qu'ils sont devenus n'ont plus cette intransigeance rigoureuse de l'enfance. » Il y a là la crainte d'une perte hein, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Mais il y a cette peur de perdre la capacité du chant avec la perte de l'âge épique. Je passe rapidement à une autre citation qui me paraît absolument fondamentale. Dans « Miracle de la Rose », l'enfance représente moins ou autant une réalité biographique qu'un registre poétique, celui de l'épopée. Je cite « Tous les souvenirs qui se prestent à ma mémoire sont obscurément choisis, de telle sorte que mon séjour à Maîtrée ne paraît avoir été qu'une longue noce coupée de drames sanglants, où j'ai vu les colons se cogner, faire d'eux des tas de chair saignante, rouge ou pâle et chaude, dans une fureur sauvage, antique et grecque. Nous sommes au cœur de l'Iliade, c'est-à-dire à la source du chant. Voilà donc le ton que je prendrai pour parler de Maitrey, d'Arcamon et de la centrale, etc. On connaît la citation. Dans l'ensemble du miracle de la rose, j'ai compté une soixantaine d'occurrences du mot du radical champ. Il importe donc que la prison où réellement il se trouve au moment où il écrit, à savoir la santé, se coule dans une autre Fontevraud, projection de Maitrey, afin qu'elle en soit le prolongement, une prison plus que vraie, véritable custode, non pas seulement de garder, mais surtout de faire rayonner ce qu'elle contient de plus exemplaire, le condamné à mort, qui occupe la pointe de la plus extrême solitude, et c'est de la solitude qu'émane le chant selon Genet. En accompagnant le criminel, l'exclu, le chassé, il gagne la place d'où le chant est possible. Dans l'enfant criminel, il s'adresse à une société bien peignée en lui disant « Je reconnais votre sens pratique, hélas, je ne puis le chanter, accusez-moi donc de lyrisme. » On sait que le lyrisme ne pousse pas sur les bons sentiments pour Genet, mais il laisse concentrer d'énergie immémoriale et élémentaire que la custode, c'est-à-dire la prison, la prison doublée de son essence de prison, à la fois contient et permet. Donc, le trait d'union entre Maitrey et Fontevraud sera Arcamon. Ce personnage, dont le nom sonne comme celui d'un héros, à la fin du premier paragraphe, Arcamon, condamné à mort, qui va être jeté dans l'Hadès, comme ces preux dont parle Homère et qui sont livrés aux oiseaux et aux chiens. Tout au long du roman, Genet insiste sur la vie courte mais glorieuse d'Arcamon. C'est le propre d'Achille dans l'Iliade. Et on trouve de multiples exemples de ce motif dans Miracle de la Rose. Mais la véritable signature du héros, c'est sa mort. Mourir en beauté, c'est beau, dit un jeune détenu à la table du narrateur. Alors, je songe à un personnage comme Bulcaen, dont la bêtise et la vanité sont soulignées par Genet, et qui devrait être néanmoins transformé par cette mort afin qu'il se plie aux exigences du chant. J'ai le toupet de penser que Bulcaen ne vécut qu'afin que je fasse mon livre. Il fallait donc qu'il mourût, après une vie que je n'imagine qu'audacieuse, arrogante, giflant sur son passage toutes les faces pâles. Sa mort sera violente et la mienne suivra de près. C'est ainsi que Patrocle, mourant, annonce à Hector sa mort proche et Hector fera de même avec Achille. La belle mort, toujours annoncée par Prolepse dans l'Iliade, sera le lot de Bulcaen et du bandit Bochaco, personnage qui bénéficie d'une épithète homérique, comme d'Arcamon. La mort de Bulcaen, maintes fois prédite, sera évoquée à deux reprises, la première fois sous la forme de récit assez précis, et la deuxième à travers la réception du récit de Brûlart, qui fait office d'Aède. Il nous récita cette nuit où il était, tandis que le cœur des détenus souligne les passages les plus beaux et les plus émouvants. L'apostrophe à Bulcaen qui suit immédiatement le double récit de cette mort fait songer à celle que le narrateur homérique adresse à Patrocle au moment où il va mourir. « Quand, tel un dieu du ciel, tu bondis à nouveau, Patrocle, alors survient le terme de ta vie. » À ce motif semble répondre un changement énonciatif dont on ne trouve que deux ou trois occurrences. Dans tout le roman, votre mort, Bulcaen, hésite et s'étonne de vous voir arriver mort. Si Genet emprunte la voix d'Homère, il ne laisse jamais oublier que la tonalité épique adoptée pour parler de la colonie et de Fontevraud résulte d'une décision souveraine. Il évoque assez souvent la tristesse et la laideur des prisons pour que l'on comprenne qu'il s'agit là d'un choix résolument poétique. En fait, il construit un monde qui obéit aux lois de composition du monde homérique. C'est-à-dire une sorte de code dans lequel tout réagit sur tout. De même à Maitrey, où il régnait, je cite, « des préceptes d'honneur, une sorte d'honneur guerrier, qui se transmettait de marle à vautour. » Chacun est sommé de se situer sur cette échelle de violence, du clodo au vautour, puis au marle, jusqu'à la figure de l'assassin qui occupe le sommet hiérarchique. Cette échelle héroïque implique que chaque voyou est un nom, comme les preux dans l'Iliade. Car, dit Genet, on ne s'appelle pas Georges Divers, ni Jules, ni Joseph Divers, mais Divers. On voit ainsi la série des noms de voyous, rassonneurs, roquiers, cires, etc. Et tant d'autres qui répondent aux Éléphénor, Ménestée, Diomède, Agapénor, etc., que l'on lit dans l'Iliade. Au fameux catalogue achéen, dans lequel Homère fait le compte des vaisseaux et des chefs, semble faire écho une scène rapportée au début du roman, où l'on voit deux détenus transporter, je cite, 8 livres monumentaux sur lesquels sont inscrits les noms des 1150 détenus. En glissant dans leurs chaussons de lisière, ils gardaient tout le poids dispensé par tant de tristesse qu'ils semblaient marcher lourdement dans un bruit de bottes de caoutchouc. Peut-on avancer que les 1150 prisonniers comptabilisés à Fontevraud répondent aux 1186 vaisseaux grecs cités par Homère? Toujours est-il que ces 8 livres impressionnants sont accueillis avec solennité dans celui de Genet. Ces volumes trop grands, trop lourds, sont comme enflés par tout ce qu'il y aurait à dire sur chacun de ces 1150 détenus et qu'il est impossible d'énoncer, comme le dit Homère, en tête de son catalogue achéen. Certes, je ne saurais nommer tous les soldats, même si j'avais 10 langues et 10 bouches, infatigable voix et poitrine de bronze. Aussi, le poète ne nommera-t-il que les chefs, j'allais dire les marles, au sommet de cette théorie virile, trône Achille Arcamon. Une différence notable, cependant, semble s'interposer entre les voyous et les préhomériques, c'est la question du père. Les préhomériques sont tous fils d'eux. Le fils de Ménestée, le fils d'Oïlée, le fils de... etc. Ménétios. Sans père ni héritage, les colons sont fils de leurs œuvres, comme Vulcaïne qui souhaite gagner le surnom de bijou. Cependant, malgré ce point aveugle sur les pères terrestres, le texte s'inspire de son modèle sur le plan céleste. Les héros grecs, en effet, descendent souvent de dieux ou de déesses. Achille est fils de Thétis, Énée fils d'Aphrodite, Ascalaphos est fils d'Arès, Sarpédon est fils de Zeus, etc. Pour hausser les enfants perdus à cette hauteur généalogique, Genet les baptise fils des anges, en citant la Genèse et le livre d'Enoch. Dans un premier temps, nous dit-il, il avait eu l'idée d'appeler son livre « Les enfants des anges ». Voilà une ascendance qui vaut bien celle de l'Olympe et qui répond au système de valeurs inversées de l'univers pénitentiaire, selon saint Genet, puisque grâce aux anges et à leur descendance, je cite, « le monde fut corrompu, l'impiété s'accentua et la fornication se multiplia ». Dans l'Iliade, les dieux parlent une langue à part et bien souvent, Homère donne la traduction des mots employés par les dieux dans la langue des hommes. Je suis convaincue que Genet a repéré ce détail. Et lui-même cite maintes fois cette langue mythique parlée par les enfants à Métrée, qui semblait être une signature, dit-il, de leur origine fabuleuse. C'est une origine antique qui est signée par cette langue, et même plus archaïque encore, je cite, « Nous étions une terre épargnée lors d'un engloutissement très ancien, une sorte d'Atlantide qui avait conservé une langue enseignée par les dieux eux-mêmes. » Nombreuses sont les citations de cette langue mythifiée par Genet et dont, en dépit de son affirmation, il donne souvent la traduction en français. Je vais passer sur un passage dans lequel je détaillais la manière de caractériser les héros par leur statut, leur rang, leur équipement et leur manière de parler. Il y a là des rapprochements que je ne peux pas me permettre de faire, c'est une question de temps. Mais disons que chez Homère, comme chez Genet, il y a une manière de caractériser les personnages de l'extérieur, par leur habitus. Et il y a là de très nombreux motifs et des rapprochements qui me paraissent tout à fait évidents à ce sujet-là. Mais je passe. Je citerai un thème brièvement qui est évident, hein, celui de la guerre, de la querelle, de la bataille, qui sont les substrats de l'épopée que l'on retrouve évidemment à Métrée, mais aussi le butin et le pillage, qui sont les activités les plus honorables qui soient dans le monde homérique, où l'on gagne gloire, honneur et richesse dans une vie de pirate bien digne de ces forbans qui hantent la galère encalminée dans la cour de Maitret. Le casseur dijonnais ne fait pas de calcul. Ses ruses sont de guerriers et non d'aigrefins. De sa plume, aussi bien verge d'acier qu'épée ou stylo trempé dans une encre épique, Genet nous dit qu'il lui voue toute la tendresse qu'un guerrier porte à ses armes. En ce qui concerne la guerre sporadique qui fleurit à Maitret, qui se présente tantôt sous la forme de bataille, tantôt sous la forme de duel, les deux formes de guerre qu'on trouve chez Homère, eh bien, il y a une remarque que fait Genet qui, vraiment, est très très proche d'un motif absolument récurrent chez Homère. La guerre suscite des veuves qui sanglotent, qui se consolent ou pleurent dans les bras du vainqueur. Quant à l'affaire des bandes moltières, elle fournit l'occasion d'une parodie désopilante des batailles homériques autant que des discours pompeux du vieux Nestor avec le double pastiche des discours du directeur et de l'évêque. Comme Scarron et comme Marivaux, Genet s'offre son Homère travesti. Cependant, malgré l'humour du récit, transparaît la férocité des enfants qui se battent jusqu'au sang parce qu'ils prennent tout au sérieux sans la moindre distance. Bref. Sans faire le bilan de tout ce que je viens de dire, en ce qui concerne le nom du héros, son équipement, le code d'honneur auquel il se conforme ou ne se conforme pas, le thème de la valeur comme le thème de la traîtrise, enfin tous ces thèmes sur lesquels je passe rapidement, eh bien, tout cela se fond aisément avec l'univers homérique. La deuxième question que j'aurais posée, donc en abordant un deuxième versant, c'est est-ce que on peut également trouver des similitudes en ce qui concerne la diégèse et le style. Alors, au premier abord, il n'y a évidemment aucune ressemblance dans la manière dont la narration est menée. Le narrateur de l'Iliade est hétérodiégétique et l'ordre du récit est globalement linéaire. Il y a un pas de l'Iliade qui ne se reconnaît en aucune façon dans Miracle de la Rose. Au contraire, le narrateur protagoniste dans le récit accumule les analepses et les prolepses au point qu'il est impossible de reconstituer l'ordre des faits. Si le récit est fermement encadré par la condamnation et la décapitation d'Arcamon, entre ces deux points, la temporalité est diffractée entre annonces, retours en arrière et reprises. Là où l'Iliade avance, Miracle de la Rose tourne en rond, comme les punis dans la salle de discipline. S'il y a quête, celle-ci s'exerce sur place. Elle est de l'ordre du creusement. Ce mouvement tournant de Maelstrom s'observe non seulement dans la narration, mais encore dans de nombreux syntagmes circulaires, tels celui-ci. Un chœur de voix graves, ferventes et émues, jusqu'au fond de l'âme, qu'on les voit. À tous les niveaux du texte, on remarque ce type de disposition qui a pour effet de ralentir considérablement la lecture. Pour comprendre, le lecteur est constamment contraint de revenir en arrière, de relire, de sorte que Miracle de la Rose se lit moins comme un roman que comme une sorte de long poème. Genet privilégie le champ sur la narration. Donc, je viens de relever une première différence dans la manière dont la narration est menée, mais une différence en écho, ce que j'appelle des différences qui se situent sur un même plan. Toujours en écho et toujours dans l'ordre des différences, mais d'ordre stylistique cette fois-ci, il existe un rapport entre les fameuses comparaisons homériques et un phénomène récurrent dans Miracle de la Rose, à savoir les parenthèses, qui jouent dans la diégèse un rôle à la fois symétrique et opposé. Dans l'Iliade, les comparaisons sont autant de portes de sortie qui aèrent un récit voué aux exploits guerriers et aux malheurs qui les accompagnent. Elles parlent d'autre chose, de la nature des animaux, de la vie des champs. Au contraire, les parenthèses, dans leur clôture typographique, bien loin d'ouvrir une porte, participent de ce creusement dont j'ai parlé plus haut, en inscrivant la clôture dans la clôture. Les parenthèses qu'elles incluent mettraient dans Fontevraud et réciproquement, qu'elles apportent une précision sur tel terme ou expression employée par les détenus, qu'elles évoquent un souvenir ou posent une question, ne nous font pas sortir de l'univers carcéral. Alors que les comparaisons homériques ouvrent autant de fenêtres sur un monde épargné par la guerre, dans l'univers de Miracle de la Rose, l'évasion n'existe pas, sinon par le haut. La pression instaurée par l'incarcération, se transforme en expression. Et plus la clôture est étroite, plus la poésie se concentre jusqu'à émettre le rayonnement d'une réelle présence. Je cite, « Ces lignes sont la clé qui ouvre le tabernacle et montre enfin le pain. » Au-delà de ces divergences que la comparaison avec l'épos homérique a l'avantage de faire ressortir, il existe des ressemblances tout aussi éclairantes, même si parfois invisibles. Ainsi, l'Iliade et Miracles de la Rose partagent un élément caché à travers, à savoir, le temps de l'histoire. L'action, dans les deux cas, se déroule sur une cinquantaine de jours. D'autre part, les deux œuvres procèdent d'une logique tragique, qui, énoncée dès le début du récit, n'a plus qu'à se dérouler comme une machine infernale. Lorsque, par des recours à des prolepses récurrentes, le récit évoque prophétiquement ce qui interviendra dans l'histoire, ce procédé crée un effet destinal. La Moïra, d'ailleurs, est partout présente dans Miracle de la Rose. Elle apparaît même sous la forme mythologique des parcs, familières au coin de la cellule. J'implorais les araignées qui avaient tissé de si précieuses circonstances que leur fil ne se rompit pas. Une autre ressemblance tout à fait fondamentale concerne l'énonciation narrative. On a déjà vu au sujet des personnages de la fiction principale que les protagonistes de l'univers narré présentaient des similitudes avec les guerriers homériques. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on appelle la fiction secondaire. La narration étant elle-même une composante de la fiction, le narrateur s'y forge un personnage par rapport à sa propre énonciation. Au-delà du saut quantique impliqué par la différence entre narrateur hétéro et homodiégétique, Homère et Genet se rejoignent dans le statut de celui qui prend la parole. Celui-là contient le narrateur et partant prend le pas sur lui, parle plus haut que lui. C'est le poète. Dans Miracle de la Rose, l'instance d'énonciation est double. Il y a le narrateur nommé Jeannot, protagoniste de l'action, et mêlé à cette voix, une instance d'énonciation distanciée, proche de la posture hétérodiégétique, qui se situe hors de l'action et parle depuis un lieu qui n'est pas celui de la fiction, fût-elle autobiographique. De là, telle celle d'Homère, cette voix peut juger ou plaindre les personnages. Elle peut leur adresser un éloge, un poème, une apostrophe. Dans l'Iliade, la violence d'Achille est jugée excessive. Dans Miracle, les crimes d'Arcamone sont qualifiés de fautes. Mais c'est cette hubris qui, justement, fonde le poème. Face à ceux d'Arcamone, Genet dit « Je suis poète en face de ces crimes et je ne puis dire qu'une chose, c'est que ces crimes libèrent de telles effluves de roses qu'il en restera parfumé, et son souvenir est le souvenir de son séjour ici jusqu'au plus reculé de nos jours. » C'est aussi pour cette raison exactement qu'aujourd'hui encore, Achille habite notre mémoire collective. De quel lieu intemporel provient la voix que nous entendons à la fin de Miracle de la Rose ? Je transmettrai très loin dans le temps leur nom. Ce nom seul restera dans le futur débarrassé de son objet. Qui était Bulcaène, Arcamone, Diver ? Qui était Pylorge, qui était Guy ? Demandera-t-on. Et leur nom troublera comme la lumière nous trouble, qui arrive d'une étoile morte il y a 10 000 ans. Pour atteindre à cette hauteur de parole, Genet avait besoin d'un porte-voix qui était déjà là, disponible dans sa mémoire de lecteur. Pour dire maîtrait, il lui fallait un registre qui soit adapté à ce que l'on ressent à cet âge et qui soit capable d'exprimer l'empreinte que ce lieu avait laissée en lui. Homère s'y est engouffré par aspiration. Je citerai très brièvement un passage qui me paraît très exemplaire de ce processus. À un moment donné, lorsque le narrateur est surpris dans un couloir par un gaffe, le narrateur dit « J'étais à cheval ». Eh bien, le modèle homérique joue un rôle analogue à celui de ce cheval imaginaire. C'est un élévateur verbal et poétique. Genet monte en Homère, pourrait-on dire, et son écriture s'élève au niveau du chant. Il faut dire que Genet a une manière bien à lui de se saisir des lectures, des livres des autres. Je vais passer également une page en me contentant de deux citations. Voici ce qu'il dit de ses lectures du roman. « Je rapporte tout à mon système où les choses ont une signification infernale et même lorsque je lis un roman, sans se déformer, les faits perdent le sens que donne à l'auteur et qu'ils ont pour vous, afin d'entrer sans heurts dans cet univers d'au-delà où je vis. Un exemple, il cite un exemple de ce processus avec l'histoire du livre de la comtesse de Ségur qu'il lit devant ses camarades à Maitrey. D'habitude, c'est Arcamon qui lit, et puis un jour, Arcamon est ivre et on lui donne le livre. Et il lit la comtesse de Ségur. C'est alors que je lus cette phrase écrite par la comtesse de Ségur. Ce cavalier était bien monté. Si elle voulait dire que sa monture était belle, Divers, en disant « bien monté », évoquait son splendide appareil d'amour, et moi, en prononçant la phrase, j'eus l'émerveillement de transformer pour moi seul Divers en un centaure impétueux. Alors, il y a tout de même une citation d'Homère dans « Miracle de la Rose », dans le chant « À la gloire du prévôt », Genet cite Homère de mémoire et vous allez voir qu'il a la même manière de transformer les choses, hein, exactement de la même façon. Merveilleuse, étourdissante invocation d'Hector, par ta vie, par tes parents, par tes genoux, par tes genoux. Bon, on sait que le geste de toucher les genoux dans Homère signifie un geste de supplication et Genet le transforme en geste d'amour. Hein. Il dit qu'il prend que ses genoux sont comme d'énormes boules de neige. Donc ce geste de supplication se transforme complètement. En tout cas, ces exemples, qu'il s'agisse de la comtesse de Ségur ou même donc l'exemple d'Homère, nous montrent bien comment Genet se saisit du monde homérique pour le lire à sa convenance. Parce qu'il faut noter que le monde homérique est hétérosexuel. Et cette hétérosexualité est bel et bien dénotée par le texte homérique. Je cite une petite phrase. Achille va dormir au fond de sa maison solidement construite. Aux côtés de ce preux est couchée une femme qu'il a prise à Lesbos, la fille de Phorbas, Diomédée la Belle. Patrocle, lui, va se coucher à l'autre bout, auprès d'une captive aux beaux atours, Iphis, que le divin Achille lui donna quand il eut pris Cyros, le haut fief d'Énios. Mais l'hétérosexualité dénotée par le récit homérique n'est nullement un obstacle, comme on sait, Genet se fantasme en belle captive, avec des voiles, etc. Et il y a également le rêve d'Achille. Achille rêve qu'il voit Patrocle en rêve. Hein. Il essaye de le prendre dans ses bras et on retrouve exactement la même histoire lorsque nous avons ce rêve d'amour post-mortem avec Bulcaïn dans Miracle de la Rose. Résumons. Dans ses lectures, Genet pille ce qu'il veut. C'est une forme de butin. Homère représente sa principale source d'innutrition parce que, pour ce qu'il avait à dire, il avait besoin non seulement d'un chant, mais d'une forme très ancienne. On sait que dans l'Antiquité, le mode poétique n'est pas séparable du contenu, et Genet a cette même conception. La forme modèle le fond. On retrouve ici l'image de la custode renfermant le pain. C'est la prison qui fait surgir la nécessité du chant et c'est l'énergie ainsi libérée qui projette les protagonistes, narrateurs et personnages, hors de leur histoire, dans la pérennité atemporelle de l'œuvre poétique. On remarquera que dans l'apostrophe au lecteur à la fin de Miracle de la Rose, la perspective évoquée, c'est la perspective des hommes à venir dans 10 000 ans. Et dans le journal du voleur, on a au contraire une phrase de remontée. Il cherche à traverser les couches généalogiques et il veut remonter la Renaissance, le Moyen-Âge, les époques carolingiennes, mérovingiennes, byzantines, romaines, les épopées, les invasions, afin de parvenir à la fable où toute création est possible. Il y a donc une très étroite concordance entre le procès créateur à l'œuvre dans Miracle de la Rose et le recours pour l'incarner à une voix qui se trouve à l'origine même de la fable. J'arrive à la fin de mon exposé avec deux dernières remarques. Genet décrit, en ce qui concerne ce processus créateur, il décrit une figure de chute. Il montre comment il tombe à l'intérieur de lui-même. Une sorte de précipice, dans le précipice de sa subjectivité. Et là, il en arrive aux racines de l'humain. Mon imagination m'entoura d'une foule d'aventures, destinées peut-être à adoucir ma rencontre avec le fond de ce précipice, car je croyais qu'il avait un fond, mais le désespoir n'en a pas. Et au fur et à mesure que je tombais, la vitesse de chute accélérait mon activité cérébrale, mon imagination inlassable tissait. Enfin, emporté, exalté par la violence, il me parut à plusieurs reprises qu'elle n'était plus l'imagination, mais une autre faculté, plus haute, une faculté salvatrice. Toutes les aventures inventées et splendides, de plus en plus, prenaient une consistance dans le monde physique. Ce n'est pas moi qui les vivais, elles vivaient ailleurs et sans moi. Ce mouvement de chute à l'intérieur de soi jusqu'à l'oubli de soi entre en parallèle avec celui qui consiste à descendre les millénaires et à rejoindre l'immémoriale nuit. Et cela est aussi pour sa beauté. Jean Genet a emprunté le souffle homérique. Pour finir, je voudrais évoquer une allusion mythologique qui surgit dans le texte au voisinage de plusieurs thèmes entrecroisés, où il est question de Maitré, d'Arcamone et de son code d'honneur, d'une phrase dans laquelle il est dit, à propos d'Arcamone, « L'assassin crée la cour d'assises et son appareil. Point. » En face de cela, on pense du sang de Méduse à la naissance de Chrysaore et de Pégase. On se souvient du mythe. Lorsque Persée coupa la tête de Méduse, de son sang, naquirent Chrysaore, le guerrier à l'épée d'or, et Pégase, le cheval ailé, symbole de la poésie. Cette référence semble résumer en une figure unique les éléments essentiels du miracle de la rose. Couper la tête de la Méduse, c'est échapper à la mort par pétrification. Cette mort, illustrée par la stupeur des gardiens assistant pétrifiés aux batailles des colons et traités de brutes ignobles, parce qu'ils ne comprennent rien à la beauté du monde homérique de Maitré. Je cite. Ils étaient médusés par un spectacle en colère dont la beauté les dépassait. Les gardiens contre modèle absolu rappellent toutes ces statues d'hommes changées en pierre qui entouraient l'antre des Gorgones. Retournons la proposition. Celui qui sait voir la beauté n'est pas pétrifié. Du sang, de la cruauté et de la violence. Miracle de la rose fait surgir l'image du guerrier, diffracté en divers personnages, que subsume Arcamone, le porte-glaive et glaive lui-même, et qu'on retrouvera sous la forme d'Éric, dans Pont funèbre. Chrysaore, c'est la verge d'or du capitaine de la galère. À ses côtés, Pégase ouvre ses ailes. La poésie, elle aussi, naît du sang de Méduse. Et nous voici reconduits à cette sentence initiale qui, comme je l'ai dit au début, semble définir l'épopée. Le breuvage enchanté, mis en chant, c'est le malheur. La Méduse s'est retournée en muse.